Avant d'être attaché culturel à Pékin, puis à Shanghai, Claude Hudelot fut longtemps le directeur de grandes institutions artistiques en France, telles que la Maison de la Culture de La Rochelle ou les Rencontres internationales de la photographie d'Arles. À l'étranger, il dirigea l'Institut franco-japonais du Kansai et la Villa Kojoyama, une résidence pour artistes français à Kyoto, au Japon. Il a été d'autre part producteur de radio à France Culture, producteur, présentateur et réalisateur de télévision et commissaire de nombreuses expositions d'art et de photographie. Il quittera très bientôt son poste au consulat général de France à Shanghai, tout en continuant d'ailleurs à habiter Shanghai avec en perspective l'exposition universelle de Shanghai 2010. Claude Hudelot a découvert la Chine en 1964. Il apprend le chinois avant de se consacrer à l'histoire contemporaine de la Chine. En 1971, il publie son premier livre, La Longue Marche, chez Gallimard. Plusieurs autres ouvrages suivront, dont une seconde Longue Marche, collection Découverte Gallimard, et Mao, collection La Ville à Légende aux éditions Larousse. On lui doit très récemment la création de la première Nuit Blanche à Shanghai, qui a accueilli une cinquantaine d'artistes chinois et français. J'ai rencontré Claude Hudelot à Shanghai l'été dernier. Nous avons parlé de son amour pour la Chine et le Shanghai d'aujourd'hui. Claude Hudelot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes attaché culturel au consulat général de France à Shanghai. En quoi consiste le travail d'attaché culturel ?
Ça consiste à programmer les événements culturels, artistiques, dans ce qu'on appelle une circonscription qui concerne donc bien sûr Shanghai, mais qui concerne aussi d'autres provinces aux alentours, en l'occurrence celle du Zhejiang, du Jiangsu et dans une moindre mesure celle de l'Anhui, hein, qui vient d'être attachée à nous, et ça représente une population d'environ 180 millions de personnes. Mais soyons clairs, enfin, nous sommes ici essentiellement pour proposer aux Shanghaïens ou aux gens qui vivent à Shanghai ces activités, hein, ce que nous venons de faire, je crois, avec un assez grand succès au cours des années franc-chine et notamment au moment de l'année de la France en Chine. Et puis de temps en temps, nous essayons de sortir de Shanghai et d'aller dans d'autres villes importantes d'ailleurs, hein, comme celle de Hangzhou où se trouve l'une des écoles des beaux-arts les plus importantes de Chine, ou à Nankin, hein, qui fut Nanxing, comme on dit en chinois, qui fut la capitale du Sud pendant l'époque des Song, mais aussi au moment de Chiang Kai-shek, et qui reste une ville importante où se trouve une alliance française. Et donc nous essayons de diffuser ces activités, ces propositions qui sont des expositions. Par exemple, les impressionnistes, c'était le plus grand moment, je pense, des années franc-chine, qui sont les paladins avec William Christie et puis les chorégraphes que sont Montalvo et Dominique Hervieux. C'était un spectacle considérable, très lourd, magnifique, quatre représentations, standing ovation, etc. Dans le grand théâtre construit par un architecte français, d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Marie Charpentier, aussi bien que l'Orchestre National de Paris, ou bientôt, je crois le savoir, Jean-Claude Casadesus et l'Orchestre National de Lille, de la danse contemporaine, du hip-hop, et du jazz, bien sûr toujours français, avec des gens qu'on adore, comme Sclavis, par exemple. Je crois que danse contemporaine, on a eu Kelemenis, aussi bien que Préjocage, enfin, le meilleur de la France en Chine, et particulièrement à Shanghai.
Alors, vous n'avez pas toujours été attaché culturel. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours ?
Donc, je suis venu en Chine dès 1964 et j'ai eu le coup de foudre pour ce pays. Je me suis inscrit au Langzhou et ensuite j'ai eu la chance inouïe de pouvoir écrire un livre sur la Longue Marche qui est sorti dès 1971 en archives avec comme directeur de collection Pierre Nora et Jacques Revel. Et donc avec Christian Bourgois à l'époque, ce livre est passé chez Gallimard et je suis devenu ce qu'on appelle un spécialiste de la Chine contemporaine. J'ai refait un autre Longue Marche, la Longue Marche vers la Chine moderne, chez Découverte aussi, chez Gallimard. Je viens de publier quelque temps un troisième livre sur Mao, cette fois, qui s'appelle Mao, la vie, la légende, chez Larousse, et puis d'autres livres, d'autres contributions ailleurs. Et d'autre part, j'ai tourné pas mal de films en Chine. Le dernier en date s'appelle Photographe de Mao, Hobo Su Xiaoping, Photographe de Mao, que j'ai co-réalisé avec Jean-Michel Vecchier, qui a été diffusé à la fois sur France 2 et sur France 5, qui a fait l'ouverture des années de la Chine en France à Arles en 2003. Donc, la Chine, c'est une très très grande partie de ma vie. J'essaye de parler chinois, en tout cas j'ai beaucoup de relations, de guanxi, comme on dit ici, en Chine, pas seulement à Shanghai, à Pékin où j'ai vécu aussi, et puis j'essaye aussi de comprendre au-delà des apparences, ce qu'est ce pays, ce qu'il pourrait devenir, et ce qui est passionnant, c'est de voir aussi ce qui se passe ici même à Shanghai, c'est absolument époustouflant et passionnant, parfois très stressant aussi. Mais en tout cas, c'est là où il me semble qu'il vaut mieux que je vive actuellement.
Quand vous vous êtes intéressé à la Chine, elle n'était pas du tout à la mode. Donc pourquoi cet amour de la Chine ?
Alors elle n'était pas à la mode, oui et non. Elle était à la mode politiquement, très très vite. Personnellement, je n'ai jamais été maoïste. Et pour cause d'ailleurs, parce que j'étais déjà historien de la Chine contemporaine. Mais dans les années 60, elle a été à la mode maoïste. Dieu merci, il y a eu des gens très perspicaces, très clairvoyants. Je pense à Simon Leys, je pense à René Viennet, je pense à des gens comme ça, qui ont tout de suite compris à quel point c'était un piège, que cette idéologie communiste et maoïste. Et Dieu merci aussi, la Chine a changé de comportement, d'attitude, mais tout ça nous a amené aujourd'hui à travers les années Deng Xiaoping, au-delà de la terrible bande des quatre. Alors maintenant, aujourd'hui, effectivement, la Chine est pour revenir à votre question, la Chine est terriblement à la mode. Elle est peut-être trop d'ailleurs. Ma femme, qui est architecte, elle dit à propos de Shanghai, elle dit que Shanghai est trop people, comme on dit. Elle trouve que c'est trop branché, que c'est trop superficiel. Et c'est vrai que on peut croire que d'une certaine manière, la nouvelle Chine, avec cette jeunesse qui n'a absolument pas connu la révolution culturelle, qui n'a absolument pas connu, encore moins le grand bond en avant, ces années terribles qui ont marqué le régime maoïste, cette jeunesse chinoise très légère, très frivole, est donc très superficielle et s'en va vers une Chine de la consommation qui est très très loin des idéaux d'hier ou d'avant-hier. Mais il n'empêche que cette Chine est dans une progression absolument fracassante, dans un désir de réussir, qui est aussi un désir de pouvoir très très puissant, et qu'il faut compter avec elle. Donc mieux vaut être ici, essayer de comprendre ce qui se passe, qu'ailleurs peut-être.
Mais en tant qu'historien, quel regard vous portez justement sur ce changement, et qu'est-ce que ça vous inspire pour l'avenir ?
Alors, en tant qu'historien, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que hier, nous étions dans l'irrationnel. Irrationnel politique, irrationnel économique aussi, a fortiori. Et la question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous ailleurs, c'est-à-dire sommes-nous maintenant, dorénavant, dans le rationnel? Les Chinois ont-ils quitté l'irrationnel? Autrement dit, peut-il y avoir des retours de bâton? Peut-il y avoir des explosions? Peut-il y avoir des choses graves qui se déroule à l'intérieur de ce pays, qui est un énorme pays, qui est un pays continent, qu'on croit connaître, mais que personne ne peut percevoir d'une façon unitaire. C'est-à-dire que quand on parle de la Chine en général, quand on regarde la Chine à la télévision, quand on écoute la Chine à la radio, c'est toujours de la même Chine dont on parle. On parle de la Chine côtière, on parle de Pékin, de Shanghai, de Canton, etc. On oublie forcément la Chine de l'Ouest, la Chine pauvre, la Chine des minorités, Les minorités nationales, c'est moins de 10%, c'est 10% de la population chinoise. Ça paraît rien, mais ça veut dire trois fois ou deux fois la population française, en tout cas. Et ces gens-là sont dans un état de pauvreté absolument effroyable. Pensez, par exemple, que 300 millions de personnes en Chine n'ont pas l'eau potable, au moins 300 millions. Et pensez aussi qu'il y a des milliers de villages qui ne sont ni alimentés en eau, ni en électricité, et qui n'ont même pas de voie de communication. Donc ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, oublient, ignorent, etc. Donc il y a ces contradictions-là. Il y a des contradictions aussi d'ordre religieux, hein, qu'on a tendance à oublier aussi. Il y a des musulmans en Chine par dizaines de millions. Et les Ouïghours, par exemple, qui sont absolument pas favorable à ce régime, c'est clair. Et puis toutes ces minorités dont je parlais qui sont au pourtour de la Chine, et pas seulement les minorités, des populations entières qui sont en dehors, qui sont placées en dehors de cet accroissement économique, hein, qui bénéficie à beaucoup d'autres. Et donc on a une échelle de richesse. Jadis, hein, quand j'étais au Langzhou, comme on dit, que j'étudiais la Chine, avec mes maîtres, on parlait d'une échelle de 1 à 5, ce qui était absolument miraculeux. Entre l'ouvrier et le chef de parti, disons, bon, c'était faux en fait, c'était des mensonges, mais peu importe, à la limite, l'échelle peut-être était de 1 à 20 ou de 1 à 10, 1 à 20. Aujourd'hui, c'est de quoi? C'est de 1 à 1000, 1 à 2000, 1 à 3000, puisque nous avons aussi ici aussi bien des gens donc qui sont dans la rue, qui sont dans l'extrême pauvreté, ici à Shanghai. Il suffit d'aller dans les quartiers où personne ne va, et bien sûr dans la campagne, dans les banlieues. Et puis il y a des milliardaires, il n'y a pas des millionnaires, il y a non seulement des millionnaires, mais des milliardaires. Et nous, bien sûr, on a tendance à côtoyer plutôt les derniers que les premiers, c'est clair, pour des raisons évidentes. Mais c'est ça la Chine. Donc porter un jugement sur la Chine en tant qu'historien, c'est se rappeler donc de toutes les avanies, hein, qui ont été vécues en Chine. Alors, Dieu merci, il y a quand même deux éléments qui sont apportés au crédit de ce régime, hein, c'est l'unité du pays, hein, qui n'existait pas avant 1949. Chiang Kai-shek n'a jamais fait l'unité du pays. Hein, Mao Tse-tung l'a fait, au forceps, il l'a fait. Deuxièmement, il y a l'enrichissement considérable de ce pays qui se poursuit à une vitesse grand V. Là, en ce moment, je ne sais pas si vous savez, mais on atteint des sommets de croissance là, qui sont au-delà des prévisions. Et on parle d'une surchauffe très dangereuse du système économique chinois.
Est-ce que vous pensez que la situation que vous décrivez, le grand décalage entre ville et campagne, pourrait aller jusqu'à être explosif ?
Oui, tout est possible, d'autant que les Chinois, contrairement à ce qu'on pense habituellement, les Chinois sont des gens qui sont capables justement d'exploser. Hein. Moi, je l'ai vu, je le vois tous les jours hein, dans la rue. Il y a des rixes, il y a des bagarres pour des broutilles, hein, des petits accidents, des incidents, etc. On s'échauffe très vite, surtout quand c'est l'été et qu'on est saturé de fatigue, de pollution, etc. etc. On sait aussi, alors plus précisément, que dans certaines bourgades, dans certaines contrées, etc., les gens se fédèrent, se regroupent entre eux et s'insurgent. Hein, contre le pouvoir, pour des raisons qui sont valables, la pollution par exemple, qui atteint telle vallée, qui bousille entièrement les récoltes, les paysans, mais ils se regroupent, ils vont manifester dans la préfecture, il y a répression, il y a mort, hein, souvent mort d'hommes, parce que l'armée, le pouvoir, etc., n'hésite pas à tirer sur la foule, hein, ça c'est clair. Alors on le sait par ricochet, on le sait par Hong Kong, on le sait par jamais, ou presque jamais, par la presse, par les médias chinois qui font l'omerta est très très puissante encore en Chine. Et le contrôle politique, hein, autant l'économie galope et vit sa belle vie, autant... politiquement, le pouvoir tient la main, une main très très puissante, une main très forte sur la population chinoise, qui continue d'être, comme on dit vulgairement, très fliquée.
Alors vous habitez Shanghai, quel est votre Shanghai, la ville que vous aimez ?
Oh, mon Shanghai est à l'évidence celui de l'ancienne concession française, qui reste très diverse, très belle, très belle, avec une multiplicité d'architectures, de parcours, qui sont parfois sublimes, vraiment sublimes, que les touristes n'ont pas le temps de voir la plupart du temps, c'est comme ça. Encore que maintenant, certains quand même ouvrent certaines portes, mais c'est celle-là, c'est le Bund, à l'évidence. Moi, j'adore aller sur le Bund, vous savez, avec cette rivière, ce fleuve qui s'appelle Huangpu, avec donc d'une part le vieux Shanghai, ce qu'on appelle Puxi, ce qui veut dire Xi, c'est à l'ouest du Huangpu, et puis en face cette nouvelle ville qui vient de se construire depuis 15 ans, à l'initiative de Deng Xiaoping, qui s'appelle Pudong, donc à l'est du fleuve, avec ses grandes tours, dont une mesure actuellement 426 mètres. La prochaine, qui va se terminer là, avant la fin de cette année, mesurera 490 mètres. Ce sera la plus haute tour de Chine, pas du monde, mais de Chine. Pour revenir à ce que je préfère, c'est des lieux de paix, malgré tout, hein, des lieux, des jardins, des endroits où il n'y a pas trop de bruit, pas trop de pollution, pas trop d'odeur aussi, parce que c'est Shanghai aussi, ça, c'est merveilleux, Shanghai, il y a les meilleurs restaurants du monde, des bars magnifiques, des salles sublimes, et depuis peu aussi de très beaux musées, de très belles salles de spectacle, etc. Mais c'est une ville très ambiguë, je dirais, en ce sens que c'est très mélangé, c'est le melting pot, hein, d'une certaine manière aussi. Hein.
Une dernière chose qui vous séduit encore dans la Chine d'aujourd'hui, parce que vous y vivez depuis un certain nombre d'années, vous n'avez pas l'air visiblement fatigué de la Chine. Donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau.
Ah oui, je pense que... Alors, il y a plusieurs choses que j'aime, alors, à Shanghai en particulier. Hein. Je vais quitter bientôt une maison pour en habiter une autre. Dans celle où je suis, où nous sommes actuellement, ce qui me fascine encore, c'est vraiment totalement décalé et un peu nostalgique, c'est les petits vendeurs, les petits marchands, les chiffonniers, comme on disait en France jadis, qui passent, surtout le week-end, mais tous les jours, avec leur sonnette, avec leur voix, avec leur haut-parleur, et qui vous appellent, qui vous disent, voilà, moi j'achète, alors genre, puisque je parle chinois, je comprends assez bien ce qui se dit, je t'achète ta télé, je t'achète tes cartons, je t'achète tes bouteilles, etc. Mais parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas du tout, parce que c'est vraiment du son, quoi, c'est du son pur, à l'état pur. Et je regrette à ce moment-là de ne pas avoir de micro pour les enregistrer, ce que je ferai peut-être un jour. Et c'est des appels comme ça qui sont lancinants. Ça, c'est une chose que j'adore. Comme j'adore aussi entendre, puisque les fenêtres sont grandes ouvertes, on est dans un quartier français, mais au sein d'une communauté chinoise, c'est ce qu'on a vraiment choisi. Et on entend des voix d'opéra, des musiques traditionnelles, ou des gamins qui chantent en anglais dès le matin. Alors ça, c'est aussi une indication. Il y a une école primaire qui est juste à côté, et tous les gamins, tous les matins, avec leur prof, leur maîtresse, etc., pendant trois quarts d'heure, une heure, ne font que des exercices, des chansons, etc. En anglais. Ça, c'est un comportement d'aujourd'hui en anglais, donc dans cette langue qui n'est pas la nôtre, mais qui est une langue véhiculaire très importante. Ça, c'est une chose. Ce que j'adore, par-dessus tout, en fait, hein, c'est prendre mon vélo tranquillement le week-end, me balader dans les rues de cette ville que je connais maintenant quasiment par cœur, et aller aux puces, et passer des heures aux puces à collectionner des photos, puisque je suis un grand collectionneur de photos, à collectionner des porcelaines, des Mao, puisque j'en ai des centaines, je crois des milliers, des objets donc autour de cette personnalité très ambiguë, qui était celle de Mao Tse-Tung, et puis voilà, de toucher les choses, de rencontrer, mais aussi de rencontrer les gens, discuter avec des amis chinois ou français, enfin c'est et me balader en Chine, ça c'est la Chine est c'est enfin, c'est inimaginable, hein, quand vous allez, j'étais il n'y a pas longtemps au Xinjiang, c'est-à-dire dans une région désertique, vraiment totalement désertique, et puis après vous basculez 3 semaines après, vous allez sur l'île de Gulangyu, en face de Xiamen, c'est le paradis tropical avec des vieilles maisons coloniales, hein, du début du siècle, vous allez après, à 2 heures de là, vous arrivez dans des villages Hakka, hein, c'est-à-dire dans des structures rondes, gigantesques, qui ont été construites depuis des siècles, où vivent ces gens depuis des siècles. C'est ça la Chine, c'est cette diversité infinie, 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 infinie.
Claude Hudelot, merci.